Tendu comme une crampe, l'édile se rend compte qu'il ne va rien pouvoir faire pour endiguer le rassemblement de la foule. Elle ne cesse de grossir sous ses fenêtres. Les agents, eux, lui font remonter des informations unanimes. C'est toute la ville qui est sortie pour faire la fête. De la 5e avenue à Brooklyn, du Bronx au Queens, on se prépare. Des drapeaux américains flottent partout. On se congratule, on rit, on pleure. Mais faut pas se leurrer. Dans certains lieux, la joie est ténue, teintée de tristesse. Oh non pas que la guerre soit regrettée, évidemment, non. Mais à côté de la femme qui exulte de voir rentrer prochainement son mari, des malheurs existent. Une mère, une sœur, une épouse, un frère ou un père anéantis par la perte d'un des leurs sur le front. Il est mort, malgré la capitulation de l'Allemagne nazie, continue de s'empiler en Asie. Alors la célébration, le maire compte bien la limiter au maximum. D'ailleurs, dans certains quartiers, plus que les confettis, ce sont les prières et les messes qui s'imposent. Le président Truman, lui, fête en ce jour de gloire son 61e anniversaire. Un signe du destin puissant qui ne le fait pas basculer dans une euphorie passagère et malvenue. La retenue, les New-Yorkais présents sur Times Square ne veulent pas en entendre parler. Des années qu'ils subissent les affres guerrières, les privations et qu'ils assistent impuissants au départ pour la guerre de nombre des leurs. Hitler est mort. Le nazisme a capitulé sous le langage des bombes. Et certains Américains ne comptent pas se laisser dicter leur conduite. Ici et là, sur les façades, des haut-parleurs sont installés. On y diffuse de la musique. Sur l'un des plus grands immeubles de la 5e avenue, des notes bien connues commencent à résonner. Ce sont celles de Appalachian Spring, l'œuvre d'un certain Aaron Copland. La mélodie shaker, aussi simple que lumineuse, dégage une sérénité absolue. Ce matin, elle est l'image sonore de l'Amérique victorieuse. Copland l'a composé quelques mois plus tôt, animé par la volonté d'écrire pour la liberté. Dès sa sortie, le succès fut très impressionnant. Pour ce travail inouï, aux répercussions extraordinaires, le quadragénaire vient de remporter le prix Pulitzer. C'est pas rien tout de même. Depuis quelques années, il est au sommet de sa gloire. Il incarne à lui seul la nouvelle identité musicale US. Copland met l'Amérique en musique. Et pourtant, alors que la victoire finale semble se dessiner et que le musicien le plus influent du pays est joué partout, une nouvelle menace guette. Les alliés d'aujourd'hui pourraient bien devenir en un rien de temps les ennemis de demain. Au même moment, à Berlin, l'Allemagne nazie a capitulé depuis hier. L'acte a été signé à Reims. Mais un des grands gagnants de cette séquence refuse de ne pas être mis à l'honneur. Joseph Staline, maître incontesté de l'URSS, a ordonné qu'une seconde capitulation soit organisée. Et cette fois, cela doit être à Berlin, la capitale du Reich qu'il vient de conquérir. Ancien allié de circonstances d'Hitler, Staline a su renverser une situation mal engagée après l'invasion des troupes nazies sur son territoire. De grandes batailles, comme celle de Stalingrad, ont eu lieu et ont permis de renverser le rapport de force. Berlin est une ruine. Staline a gagné. Alors, pour marquer l'avènement de l'URSS, il a exigé que cette seconde cérémonie se tienne au quartier général soviétique. Djoukov, Kettle ou Delattre de Tassigny sont donc réunis au milieu de la nuit. Juste avant minuit, heure d'Europe occidentale. À 1h, le 9 mai, heure de Moscou. Staline jubile. Il impose ses vues aux autres puissances du monde, dont les Américains. La guerre lui a permis de devenir un homme qui compte, à la tête d'une armée puissante et équipée en masse. Déjà dans la nuit allemande, s'immisce chez une partie des alliés d'inquiétude vive. Et si l'imprévisible soviétique cherchait à agrandir encore davantage son empire territorial? Maintenant que l'Allemagne est vaincue, où va le mener sa dévorante ambition? Staline serait-il capable de se retourner contre les Américains? La paix en Europe est ratifiée, mais déjà, une peur indicible s'installe dans les cœurs et les esprits. Une nouvelle guerre mondiale est-elle possible, alors que la deuxième n'est même pas terminée? La situation pourrait bien de nouveau basculer, mais pour la toute première fois, une nouvelle arme pourrait à elle seule provoquer la fin du monde. 6 août 1945, il est 8h16 au-dessus des terres japonaises. L'Enola Gay est un avion chargé d'une mission on ne peut plus particulière. Larguer la première bombe atomique de l'histoire. Bob Lewis, 28 ans, est copilote de l'engin militaire. Bientôt, ces gars atteignent leur destination, Hiroshima. La marche à suivre est claire. Larguer la cargaison et repartir aussi vite que possible. La ville d'Hiroshima, qui vient à peine de se réveiller, va connaître l'horreur absolue en un rien de temps. Après 43 secondes de chute libre, Little Boy explose à 580 mètres à la verticale de l'hôpital Shima, en plein cœur du centre-ville. L'engin explosif libère une énergie équivalente à environ 15 000 tonnes de TNT. Des dizaines de milliers de personnes, en un instant, sont tuées par l'effet de l'explosion. Beaucoup d'autres vont devenir les victimes d'un mal bien plus terrible encore, l'irradiation. La première bombe nucléaire de l'histoire vient d'être lancée en conditions de guerre. Le monde, en un claquement de doigts, bascule dans une nouvelle ère. Bob Lewis le comprend bien. En observant le champignon qui s'élève, il étrangle ces quelques mots. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Oui, il est trop tard. Aaron Copland, comme tous les Américains, apprend la nouvelle du bombardement par voie de presse. En lisant la nouvelle, il repense à ses notes de sa fanfare « For the Common Man », une ode particulièrement forte et symbolique, composée alors que la guerre faisait déjà rage. Copland est un fervent patriote. Alors que la fin totale du conflit se profile enfin et que le Japon s'apprête à connaître un deuxième bombardement nucléaire à Nagasaki, tout s'apprête à basculer. Après la capitulation nippone, un nouvel équilibre mondial va s'installer, provoquant la montée du communisme. La société américaine bientôt va condamner ceux qui sont suspectés de propager l'idéologie des Rouges. Une véritable chasse aux sorcières va s'engager. Et aussi fou que cela puisse paraître, Aaron Copland pourrait bien faire partie de ceux qui vont y laisser des plumes. La Deuxième Guerre mondiale, l'un des pires conflits que l'humanité n'ait jamais eu à traverser, s'achève peu de temps après le lancement des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Le Japon capitule et au moins une centaine de milliers d'êtres humains ont été soufflés ou irradiés en quelques secondes. La paix, une nouvelle fois, est décidée dans le sang. La Shoah, les innombrables morts civiles et les pertes militaires inégalées dans l'histoire mettent l'humanité face à une horreur sans nom. Et pourtant, c'est l'insouciance qui, dès l'été 1945, reprend sa place aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. La paix, voilà tout ce qui compte. Mais ce tableau ne doit pas faire oublier que près de 20 millions de réfugiés cherchent à rentrer chez eux. Le continent européen tout entier est devenu une zone de mort et de désolation, et tout reste à reconstruire. Sur les cendres, il va falloir bâtir un nouveau monde. À Moscou, Staline jubile. Il est considéré comme le grand gagnant de la guerre et a mis à genoux les nazis en s'emparant de Berlin. Sa propagande élude, évidemment, l'aide financière qu'ont pu lui apporter les puissances occidentales. Plus encore, ses conquêtes territoriales en Europe de l'Est lui ont permis d'annexer bien des nations à son empire communiste. Sous sa coupe, ils sont bientôt plus de 100 millions de personnes. Gourmand, le petit père des peuples? Oh, la réponse est oui. Des bruits courent dans les chancelleries européennes et aux États-Unis. Staline chercherait à propager le communisme partout en Europe occidentale. Le tout afin de préparer l'invasion de la partie du continent qu'il ne contrôle pas. La France ou l'Italie drapée de rouge? Le dictateur l'envisage sérieusement. Pour ce faire, il compte d'abord s'attaquer aux empires coloniaux des puissances occidentales. Dès juillet 1945, à Potsdam, non loin de Berlin, une conférence entre les puissances vainqueurs est organisée. Les bombes atomiques n'ont pas encore été lâchées. Le terrain allemand est alors occupé par les troupes soviétiques. Churchill et Truman sont au rendez-vous. Méfiants. L'aplomb de Staline durant les retrouvailles ne leur dit rien qui vaille. Le leader soviétique apprend à cette occasion l'avancée du développement de l'arme atomique par les Américains. Dès lors, il n'a qu'une obsession. L'obtenir, lui aussi. D'aucuns pensent que l'utilisation de la bombe au Japon est aussi un moyen pour l'oncle Sam d'impressionner l'ours russe. Mais ce dernier ne se laisse pas avoir. Plus encore, il avance masqué. Staline profite des dernières semaines de guerre pour envahir la Mandchourie et le nord de la Corée. Chaque fois, il y impose le communisme. Les Américains, installés dans le sud de la nation coréenne, comprennent que quelque chose est en marche. Il faut dire que l'idéologie marxiste est partout. En France, cinq ministres communistes sont dans le gouvernement provisoire. De Gaulle a appris à s'en méfier. Mais le parti, très puissant au niveau populaire, est devenu incontournable. Mais le pays des Lumières est particulièrement atteint par ces années de guerre et d'occupation. Et son empire colonial ne va pas tarder à se déliter, en premier lieu en Asie. Staline veut profiter de la diffusion du communisme pour élargir sa puissance partout où il le peut. En Indochine, Ho Chi Minh, militant anticolonialiste autrefois affilié au Parti communiste français, est son relais sur place. Formé en URSS, grand ami de Mao Tse-tung, il lance à Hanoï un soulèvement contre le colon français. La paix, chimère, voilà déjà le retour de la guerre. Il faut dire qu'en 1944, alors que Ho Chi Minh combattait les Japonais en Indochine, les Américains, qui rêvaient déjà d'indépendance, lui ont largué des armes et prodigué des conseils tactiques. Une hérésie qui se retourne dès 1945 contre la France. Les Viet Minh, les soldats communistes, dans la région du Tonkin, sont très puissants. Ho Chi Minh exige l'indépendance du Vietnam, qui doit regrouper plusieurs régions indochinoises. Le général Leclerc, l'un des héros de la libération, est chargé de mater les rebelles. Envoyé sur place, sa mission est on ne peut plus claire. Sauver l'Indochine française. L'officier supérieur lance ses hommes près de Saïgon, à Cochin Chine. Il veut se frotter aux Viet Minh sans attendre. Mais il doit bientôt se rendre à l'évidence. Ce conflit promet d'être un véritable bourbier. La solution militaire, dès le début de l'année 1946, ne lui semble pas la meilleure qui soit. Les États-Unis, eux, s'inquiètent de cette progression de l'idéologie rouge. Le président Truman commence à sentir un étau terrible qui l'enserre. Mais comment peut-il agir ? La Deuxième Guerre mondiale n'est pas terminée depuis 6 mois. La France est poussée à la négociation. Elle envoie dans le Tonkin l'espion Jean de Saint-Denis, qui parvient à gagner la confiance de Ho Chi Minh. Ils signent ensemble, au mois de mars, un accord historique. Le Vietnam devient libre en échange du maintien des Français sur place pendant 5 ans. Un accord bâtard qui forme le terreau d'une nouvelle poudrière. À la fin du mois de mai 1946, le leader Viet Minh se rend en France dans le cadre d'une grande conférence organisée à Fontainebleau. Elle doit acter l'indépendance du Vietnam. C'est un échec. Le document qui est signé n'est rien d'autre qu'un accord vide. Tout reste à faire et sur place, la situation se tend davantage. À l'automne, c'est la guerre qui reprend. Ce conflit qui se déclenche immédiatement après la Seconde Guerre mondiale est un point de bascule majeur sur l'échiquier du monde. L'Ouest et l'Est forment dorénavant 2 blocs distincts et concurrentiels. Et leur affrontement risque bien de se terminer dans de nouveaux bains de sang. Staline, lui, est on ne peut plus clair. Une nouvelle guerre est inévitable. Nous avons besoin de nous développer pour lutter contre l'Occident. Ouais, bah les choses sont dites. C'est la guerre froide. ...1950, Knickerbocker Village, Lower East Side, New York. Au domicile de la famille Rosenberg, tout bascule en un instant. Ethel, la mère de famille de 34 ans, comprend très vite que son mari est dans de sales draps. Le FBI, par torrents entiers d'agents, entre chez eux sans prévenir. Julius, son époux, est arrêté sous le regard médusé des enfants. L'affaire est suivie dans la presse de tout le pays. Ethel a convoqué les journalistes pour dénoncer la violence de l'État. Elle paraît désœuvrée, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Mais en réalité, Ethel et Julius sont accusés d'être des militants soviétiques et pire, des espions à la solde de Staline. Dans moins d'un mois, le FBI va l'inculper, elle aussi. Un procès hors norme va démarrer. Coupable ou pas, le couple va servir d'exemple. Dans les rouages du pouvoir, le sénateur McCarthy est de ceux qui veulent éradiquer l'idéologie communiste aux États-Unis. Pour cela, il ne va pas hésiter à purger tous ceux qu'il soupçonne d'être des suppôts de Staline, en commençant par l'administration et le milieu culturel. L'arrestation des Rosenberg permet de démanteler un réseau tentaculaire d'espions, ce qui participe à la montée d'une sinistrose dans l'opinion. Bientôt, personne n'est à l'abri. Aaron Copland, lui, ne va pas tarder à se retrouver au cœur du réacteur. Ancré à gauche, juif, il se retrouve avec une cible dans le dos. Le grand musicien serait-il un complice du mal communiste ? Dans son appartement de New York, il repense à l'ouverture orchestrale de son œuvre composée en 1942, A Lincoln Portrait, et il suit les méandres tentaculaires de l'affaire Rosenberg sans se douter que bientôt, ce sera son tour. Est une doctrine politique que d'aucuns qualifient de chasse aux sorcières. Quoi qu'il en soit, elle est le marqueur d'une époque troublée, où la peur d'un affrontement imminent entre l'Ouest et l'Est est bien réelle. Dès 1947, la conférence de Moscou, qui réunit les ministres des Affaires étrangères des vainqueurs de la guerre, tourne court. Elle doit trancher sur la situation allemande et sur les conditions de son occupation. Au lieu de créer un climat positif, c'est la rupture qui est actée entre les deux blocs. Les États-Unis ne tardent pas à réagir et se lancent dans le plan Marshall. Le but ? Soutenir économiquement la reconstruction de l'Europe et la préserver du communisme. Staline ne reste pas les bras croisés et organise une résistance à l'initiative américaine. Ses militants envahissent les rues. Les partis communistes nationaux se déchaînent contre l'arrivée du matériel US. En vain. Américains et Russes font aussi peser de toutes leurs forces leurs influences en Indochine. La France y entame en 1948 une troisième année de guerre, coûteuse économiquement et en vie humaine. La guérilla fait beaucoup de mal et épuise les forces françaises. Au nord de la colonie, la Chine connaît aussi des affrontements nationaux inquiétants. Les communistes de Mao, jour après jour, gagnent du terrain. En Malaisie, en Birmanie, les Anglais se retrouvent aussi confrontés à la montée de l'idéologie communiste. Staline est en train de réussir son pari d'installer en Asie des régimes fidèles à l'URSS. Mais le petit père des peuples ne s'arrête pas là. En Europe, sa faim est aussi insatiable. En 1948, la Tchécoslovaquie bascule dans le communisme. Le souffle soviétique se répand partout avec une force considérable. L'occupation totale de Berlin devient bientôt son prochain objectif. L'ancienne capitale du Reich est partagée entre les vainqueurs. Si Staline en occupe la moitié, Français, Britanniques et Américains gèrent l'autre moitié de la ville. Mais en juin 1948, l'autocrate décide de fermer l'accès à la ville. Ses anciens alliés ne peuvent plus y entrer, ni acheminer un quelconque ravitaillement. Staline ne souhaite qu'une chose. Garder Berlin pour lui tout seul. Les États-Unis sont au pied du mur. Le président Truman, qui refuse de jouer le jeu provocateur du soviétique, se lance dans une opération gigantesque. Un pont aérien capable de ravitailler les Berlinois retranchés comme des prisonniers. Les Alliés ne vont pas abandonner et permettre l'acheminement de quantités astronomiques de denrées et de matériel durant des mois. Un tour de force opérationnel absolument extraordinaire. Tout le monde comprend alors la nécessité de s'unir pour stopper Staline et ses ambitions démesurées. Le pacte atlantique permet une union entre l'Amérique, une bonne partie des pays européens non communistes et le Canada. C'est la naissance de l'OTAN. Mais le spectre de la guerre, lui, est toujours particulièrement présent. Le monde est-il donc incapable de vivre en paix? Alors que la guerre en Indochine s'enlise et que la Chine bascule dans le communisme avec Mao, on se le demande. Et Staline, lui, n'a pas dit son dernier mot. À l'été 1949, c'est la stupeur. L'URSS teste sa première bombe atomique en conditions réelles. Le risque d'escalade, une nouvelle fois, prend un tour bien réel. Pourtant, comme un renard, le soviétique continue de se placer comme le chantre de la paix mondiale. Ses réseaux d'influence communistes se dressent contre les armes atomiques et lancent l'appel de Stockholm. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en somme. Les Rouges peuvent compter sur des relais très efficaces, composés d'intellectuels et d'artistes. En France, le couple Sartre de Beauvoir est l'une de ses têtes de pont. De l'autre côté de l'Atlantique, la peur d'une contagion communiste dans l'opinion via les milieux artistiques provoque le développement du maccartisme. Cinéma, culture et administration sont purgés. Les époux Rosenberg sont à la tête d'un réseau d'espionnage tentaculaire. Les tensions explosent et la guerre, elle,